Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien par ce beau dimanche ensoleillé.
Oui.
Ça va bien. Gloire à Dieu. Le 5 février 2008, mon épouse m'avait offert pour mon anniversaire, parce que c'est le 5 février, je vous le rappelle, c'est bientôt. Elle m'avait offert une place tout devant pour aller voir Madame Vartan à Paris. Et quelque chose était combiné dans le ciel, quelque chose était préparé dans le ciel, parce que quand Michou a pris les places, elle ne pouvait pas imaginer que quelqu'un d'autre prenait une place aussi, exactement à côté de nous. Et cette personne, c'était Sylvie Wild, vous la connaissez. Et Dieu a permis que Sylvie Wild soit à côté de Michou pendant le spectacle. Et voilà, le spectacle s'est déroulé, et l'entracte est arrivé. Et puis Michou a entendu que sa voisine avait un drôle d'accent. C'est-à-dire, elle parlait un petit peu comme ça, vous savez. Donc, hein, c'était une Suisse. Donc, ma femme lui dit, « Ah, vous êtes Suisse, mais nous aussi, mon mari, moi, je suis Suisse d'adoption par le mariage et tout. Ah, formidable !» Sylvie, vous voyez comment elle était. Et puis, donc, on a fraternisé, on est allé chez elle, elle est venue chez nous, on a passé... Et puis, elle nous a dit, dès le premier soir, qu'elle était atteinte d'un cancer du poumon et que c'était très grave et qu'elle ne savait pas si elle allait pouvoir assister au prochain concert de Sylvie l'année d'après. Je lui ai dit, mais on va prier pour vous. Ah, oh, mais ça, c'est gentil. Vous savez, les Suisses, ils sont comme ça. Donc, on a prié pour elle, et puis elle a eu une rémission pendant des années, depuis 2008. Tout allait bien. Et puis, à chaque fois, quand on se voyait dans un concert, elle disait, oh, ben, peut-être c'est le dernier quand même, là, maintenant, faut pas pousser. On disait, mais non, tu t'accroches encore, ça va. Elle me dit, oui, ça va, mais bon, quand même. C'est formidable que je suis encore là et tout. Et puis un jour, on était aux Champs-Élysées dans un restaurant. Et puis, elle me dit, tu sais, Michel, là, je crois que maintenant, j'ai trop tiré sur la corde. C'est pas possible, ça va pas durer. Mais je dis, mais il faut avoir la foi, Sylvie. Elle me dit, oui, mais tu vois, c'était une protestante, une bonne dame protestante. Donc, c'était pas, elle n'avait pas des profonds. On avait beau l'enseigner, si vous voulez, mais comme on se voyait, quoi, deux fois, trois fois par an, c'est tout. Et voilà, c'était un petit peu difficile pour elle d'approfondir ces choses. Mais elle me dit, écoute, là en Corse, il va y avoir un concert. Et puis, je pense que là, cette fois, ça va au moins être le dernier. C'est pas possible, ça va durer quand même longtemps comme ça. Puis, elle dit, moi, comme ça sera mon dernier, mais je t'offre la place parce que j'aimerais bien que tu sois là pour mon dernier, pour mes adieux à Sylvie Vartan. Je dis, ben écoute. C'est vraiment trop gentil. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté aussi une place pour ma femme. Puis, on est parti en Corse. Puis, on a vécu ce concert. Puis, c'était extraordinaire parce que là, on a rencontré l'adjoint au maire, Joseph Pierry, qui est devenu un ami et qui va venir nous voir quand on aura déménagé. Et parce qu'on sera... Voilà, ce sera magnifique pour lui aussi, pour nous. Et on est devenu ami. C'est un homme extraordinaire, lui aussi très gentil. Et chrétien, mais alors lui catholique, mais très engagé dans les choses de sa foi. Et puis, il y a 2 mois, bam, catastrophe, le cancer a repris le dessus. Et puis, mais quelques temps avant, on était dans sa cuisine, elle nous avait préparé un bon repas, on avait été se faire une balade à Montreux, au bord du lac. Et puis, dans sa cuisine, là, moi, j'avais appuyé à fond au sujet du salut. Et puis, elle a reçu Jésus-Christ vraiment comme son sauveur et comme son maître. Donc, elle était en paix avec Dieu, c'était bien et tout. Oh, c'est pas devenu une bigote, hein, pas du tout. Mais elle avait confiance en Jésus et puis elle aimait Dieu. Donc, c'était une bonne soirée. Et puis là, il y a 2 mois, boum. Donc, il a fallu qu'elle soit hospitalisée, puis ça allait de plus en plus mal. Et puis là, l'autre jour, eh bien, elle est décédée encore 20 minutes avant. Je parlais avec elle par SMS parce qu'elle n'arrivait plus à parler. Le cancer avait pris les cordes vocales. Tout ça, c'est une horreur. Elle souffrait terriblement. Et puis, ben, elle est partie avec le Seigneur. Et si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire, voyez, comment les plans de Dieu sont. Comment ça se passe avec le Seigneur. On pense pas, hein. Rappelez quand on avait été voir Bigard et puis qu'après, on a pu prier avec lui, etc. Bon, il y a des choses bizarres dans la vie, il y a des choses bizarres. Et il faut se laisser conduire, même si des fois ça paraît un petit peu bizarre. Vous savez, des gens très religieux, ils pensent que je suis complètement à côté de la plaque. Mais s'ils emmènent plus de gens à Jésus que moi, je veux bien croire que je suis à côté de la plaque. Mais moi, en attendant, à côté de la plaque que je suis, j'emmène des gens à Jésus. Amen.
Amen.
C'est ça le principal. Alors, voilà, donc cette femme, ben, elle est partie dans la gloire. Et ce mercredi, avec Michou, on va partir parce qu'elle nous avait dit, bon, un jour, je vais partir, c'est quand même, c'est sûr. Michel, est-ce que je peux te demander de faire l'enterrement? Donc, je vais faire l'enterrement. Alors, ça va être un enterrement incroyable parce que il va y avoir, je ne sais pas combien de centaines de fans de Sylvie Vartan qui vont être là parce qu'elle était aimée partout. Alors, plein de fans vont venir de Suisse, de France, de Belgique. Et ça va être quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on va pouvoir encore prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Parce que vous me connaissez, je ne vais pas leur dire Ah, si Will était formidable, ah, si Will, etc. Bien sûr que je dirai des choses en son honneur, mais je vais surtout prêcher l'évangile de Jésus-Christ avec le salut et tout. Donc, voyez comment Dieu fait les choses. Hein? Moi, je suis toujours émerveillé de voir que même à mon insu, il fait des choses extraordinaires. Gloire à Dieu, ça me réjouit. Amen. On va lire ce matin, donc nous ne serons pas là mercredi, on va faire l'aller-retour, on va se dépêcher parce qu'on a beaucoup de travail. On a une semaine surchargée. Gloire à Dieu, c'est bien quand c'est surchargé. Moi, j'aime bien comme ça, au moins on se sent vivant. Jean 15, 10, 11, s'il vous plaît. On va commencer au verset 9. Comme le Père m'a aimé, c'est Jésus qui parle, je vous ai aussi aimé. C'est-à-dire de la même manière. Vous imaginez un peu que Dieu. Que Jésus nous aime autant que Dieu le Père aime Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, quand on entre dans l'église de Jésus-Christ, on n'y entre pas pour le pasteur. C'est vrai que le pasteur peut être séduisant. Moi, quand je me suis converti, les gitans, c'était très séducteur avec leur musique, avec leur entrain, avec leur. C'était fantastique. Mais je ne suis pas entré dans l'église pour les beaux yeux bleus de Raphaël, quoique je trouvais qu'il avait des très beaux yeux. Non, je suis rentré dans l'église de Jésus-Christ pour Jésus-Christ et pas pour le pasteur. On entre dans l'église de Jésus-Christ pour l'enseignement. C'est clair, on rentre dans l'église de Jésus-Christ pour l'enseignement, parce que c'est la connaissance, c'est l'enseignement qui fait que notre comportement devient meilleur et nous prépare à l'exaltation. C'est par l'enseignement, c'est pas par des espèces de vagues sentiments ou de quoi que ce soit. Non, non, c'est par l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis la parole ». Il était la parole de Dieu qui a créé toute chose, il a tout créé par la parole, c'est-à-dire par Jésus. Ensuite, Jésus s'est incarné, il est venu sur la terre en tant qu'une personne, en tant qu'un homme. Et puis ensuite, il est devenu, il est toujours Dieu hein, en esprit, mais il y a sa parole, c'est-à-dire c'est Jésus sous forme de livre, d'écriture. Et c'est pourquoi on aime l'écriture, on aime plonger nos cœurs, nos yeux dans les écritures, parce qu'on sait que l'enseignement, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut sortir des églises qui n'apportent pas l'enseignement correct. Ça s'est toujours passé comme ça. Et ça continue à se passer comme ça. Et dans l'ordre établi, quand, par exemple, il y a eu Luther, eh bien, c'est pas les catholiques qui sont sortis, c'est les protestants qui sont sortis. Ceux qui protestent, go! Ils s'en vont. C'est la chose normale. Mais l'Église qui marche pas bien, ben, elle reste, elle demeure. Et puis ceux qui croient avoir reçu quelque chose de Dieu, ben, ils s'en vont. Il faut partir. Et si vous trouvez que je suis un mauvais enseignement, un mauvais enseignant, il faut partir. Quittez-moi. Je vous l'ai toujours dit, non? Mais faites-le alors, si vous m'aimez pas. Pas si vous m'aimez pas, si vous aimez pas l'enseignement. Il faut partir, il ne faut pas rester. Hein? Donc voilà, la parole de Dieu est riche. L'enseignement, il est vaste, il est infini autant que l'est Jésus-Christ. Et si vous vous bornez à croire que Jésus-Christ est toujours le même, hier éternellement, qu'il est celui qui sauve, qui baptise, qui guérit et qui revient, et si vous vous arrêtez là, eh ben bon, c'est bien, vous êtes pentecôtiste. C'est parfait déjà, hein, c'est déjà pas mal. Mais Jésus va beaucoup plus loin que ça, sa personne est beaucoup plus grande que cela, et nous savons qu'il est en train de rétablir toute chose, donc il faut suivre. Et ce n'est pas parce qu'il y a des enseignements qui paraissent étranges que l'enseignement est mauvais, c'est simplement qu'il est différent de ce que vous avez toujours pensé, et peut-être qu'il vous dérange. Mais s'il vous dérange, mais partez, ne restez pas, partez. Si vous venez dans l'église parce qu'un jour, je vous ai aidé, eh ben, s'il arrive qu'un jour vous n'ayez plus besoin de moi, eh ben, vous ne viendrez plus, puis c'est tout. Mais si c'est à cause de l'enseignement, si c'est à cause de la parole de Dieu enseignée, alors là, c'est autre chose. Alors, que doivent attendre, par contre, les membres de l'Église de Jésus-Christ? À quoi doivent-ils s'attendre? Ils doivent attendre du berger, c'est-à-dire du pasteur, l'enseignement. Vous savez, si on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est simple. Ou qu'il est possédé, peut-être aussi. Hein? Mais de toute façon, même si j'ai la rage. Non. Est-ce que l'enseignement, c'est ça, c'est là la chose importante. Parce que si c'est autre chose que les brebis attendent, un jour, ils vont perdre un, leur pasteur, et deux, l'enseignement. Ça, c'est triste, ça, c'est dommage. Maintenant, que peut donc faire un pasteur avec un disciple qui ne s'attache qu'à sa personne et pas à ses idées? Un pasteur normal, il va ressentir qu'il y a quelque chose de dangereux là. Parce que là, ça devient le culte de la personnalité. Alors un pasteur de qui on dit qu'il a la rage, on va aussi dire que ceux qui le suivent, ils sont des idolâtres. C'est une insulte. C'est une insulte. Quand il faut partir dignement. Dignement. Un pasteur normal, il voit qu'il y a quelque chose de dangereux qui se passe. Et alors, il va tout faire pour s'éloigner de telle personne. Parce qu'il n'a pas envie de s'empoisonner la vie. Parce qu'un pasteur normal, ce qu'il cherche, c'est à tourner autour du soleil de justice pour bénéficier des rayons afin de pouvoir les donner aux autres. Par contre, quand un pasteur voit que le disciple vient pour l'enseignement, alors il va soutenir ce disciple, il va l'aider. Les autres vont dire qu'il privilégie farpètement. Mais bien sûr, quand vous avez... C'est dans la nature même, c'est normal. Ainsi, le disciple, il a gagné les deux, c'est-à-dire il a gagné l'enseignement et l'amitié de son pasteur. Mais c'est clair, il n'y a pas besoin d'être sorcier pour comprendre ça. Jésus le disait lui-même, si vous voulez vous rapprocher de moi, accrochez-vous à mon enseignement. Vous allez me dire, il n'a pas dit ça. Si, il l'a dit d'une autre manière, mais il l'a dit. Il a dit ce qu'on a lu tout à l'heure. Il disait, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Jean 15, 11. Eh bien, c'est la même chose sur la terre. Maintenant que Jésus est remonté au ciel et qu'il a délégué son autorité au berger. Si vous gardez ce que je vous enseigne, vous demeurez dans mon amour. Sinon, vous en sortez. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Mais vous allez ressentir que je ne vous aime pas. Parce que vous allez voir une différence. Mais la différence n'est pas due à moi, elle est due à vous qui ne voulez pas l'enseignement. Quand Jésus était sur la terre, c'était comme ça et ça n'a pas changé. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez, vous gardez mon enseignement. C'est tout. Vous ne devez pas m'aimer pour autre chose que pour ça. Les gens s'attachaient souvent à Jésus parce qu'il les guérissait. C'est très bien. Ou alors il leur donnait beaucoup à manger, hein? Moi, j'ai plein d'amis comme ça, qui m'aiment parce que, au nom de Jésus, je les ai guéris, ou au nom de Jésus, je les ai nourris avec les dîmes du sanctuaire. Ils m'aiment. Mais je connais leur cœur. Je sais très bien que c'est pas profond. Et puis, il y en a qui aimaient Jésus, pourquoi? À cause de leurs sentiments, parce qu'ils avaient des sentiments dégoulinants, n'est-ce pas? Heureuses les mamelles qui t'ont allaité, poil au nez. Il y a toujours eu des bonnes femmes et des bonhommes comme ça, qui ont des sentiments déséquilibrés. Oh, Michel, tu es le meilleur pasteur du monde. Ah, Michel, tu es merveilleux. Comme tu as pris soin de mes enfants. Oh, comme c'est bien. Alléluia et tout. Puis après, ça vous fait. C'est épouvantable. C'est des sentiments. Il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus par sentiment. Et c'est la même chose. Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé. Sauf que Jésus n'est plus là en chair. Il est simplement en esprit dans votre pasteur. Je ne suis qu'une brebis aussi. Et vous ne pouvez pas attendre de moi que je sois la meilleure brebis de l'Église. Non. Vous devez attendre de moi que je vous donne l'enseignement correct. Et puis, aidez-moi à devenir meilleur. Alors, il nous faut, comme je vous aide à devenir meilleur, il nous faut tous apprendre à déchiffrer le livre de la nature vivante. Si l'harmonie règne dans l'univers, dans notre univers, dans notre petite... c'est parce que le soleil, il est à sa place et qu'il y reste. C'est tout. Chacun doit être à sa place autour du soleil de justice. Et autour du pasteur, qui est le berger local, puisque c'est l'ordre établi. L'autre jour, il y a une petite sœur blonde qui est venue puis qui a dit « Dans l'église, il n'y a pas de hiérarchie ». Mais bon, il faudrait qu'elle lise sa Bible avant d'oser dire des choses comme ça à la femme du pasteur. Il n'y a pas d'hiérarchie? Ah bon? Il y a une hiérarchie, mais c'est celle de Dieu, non pas celle des hommes. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Bien sûr qu'il y a une hiérarchie. Une hiérarchie dans toute la nature, il y a une hiérarchie. Et rien n'empêche... Je suis aimé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et rien ne m'empêche de tous les aimer, mais juste... C'est pour leur donner la lumière. Mais juste, c'est pour les inspirer. C'est juste pour les soulever, les amener plus haut vers le Père Céleste. Il n'y a aucun... Pourquoi vous pensez que je vais en Afrique? Pour leur pognon? Pourquoi vous pensez que je vais en Afrique? Parce que le Burkina, c'est beau? Je préfère aller en Suisse. Hein. La sœur, elle dit oui. Elle est du Burkina. Elle connaît bien le Burkina. Moi, j'aime beaucoup les frères et sœurs, j'aime beaucoup Nicolas, j'aime beaucoup Sally. Mais voilà, 3 semaines, ça va. Hein. Je peux plus. Au bout de 3 semaines, j'ai le moral qui traîne dans le fond de mes talons parce qu'il y a tellement de misère, tellement de saleté. Je suis malheureux. Pourquoi vous pensez que j'y vais? Mais c'est juste pour attirer. Il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres, pour les attirer dans la lumière. Et gloire à Dieu, on a réussi. Amen. Pour des milliers. Voilà, c'est la seule raison pourquoi j'aime. C'est pas pour autre chose. Un pasteur, c'est un homme seul. Parce qu'il ne peut pas écouter et faire tout ce que les disciples lui demandent ou lui disent de faire. Ça n'est pas possible. Olivier, il va me dire, tu devrais faire ça. Stéphane, il va me dire, tu devrais faire ça. Philippe, tu n'aurais pas dû dire ça comme ça, tu aurais dû le dire comme ça. C'est insupportable. Plus il y a de monde, plus c'est dur. C'est pas possible. Si le pasteur fait ça, tout s'écroule, l'équilibre n'est pas respecté, ça ne va plus. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que le pasteur ne doit pas recevoir de conseils, mais il ne peut pas recevoir des conseils de tout le monde, et surtout pas de ceux qui font rien. Regardez le système solaire. Il y a le soleil, et puis il y a de nombreuses planètes, et puis il y a des comètes, et puis il y a des astres errants, et puis, il y a des étoiles filantes. Et puis, même maintenant, il y a des satellites artificiels. Hein? Téléstar et compagnie. Apollo, machin et tout. Les comètes, elles s'approchent et elles s'éloignent. Elles ont une drôle de façon de faire, les comètes. Regardez le système solaire. Toutes les planètes tournent autour du soleil. Il y en a qui sont plus ou moins près, il y en a qui sont plus ou moins loin. C'est la même chose dans l'Église. Mais le soleil, lui, reste au centre. Est-ce que je connais la vraie science? Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Parce que vous savez qu'il y en a plein qui pensent que l'univers tourne autour des États-Unis. Moi, je crois pas ça. Hein? C'est vrai dans le système spirituel. Nous tournons tous autour de Jésus et Jésus reste au centre. Et on le chante, Jésus, tu es le centre de ma... Hein? Jésus, tu es le centre. Et ce qui est fait au ciel, c'est la même chose sur la terre. Aujourd'hui, sur terre, de façon visible, de façon réelle, de façon palpable, le pasteur, il reste au centre. Et les disciples, ils tournent autour. Et ils bénéficient de la lumière, de la chaleur, de la force de leur pasteur, de l'enseignement, des choses qu'il leur apporte. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors vous allez me dire, oh, mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est quand même pas normal. La Terre, elle se tient dans une moyenne à peu près à 149 600 millions de kilomètres du Soleil, vous saviez ça? Mars, elle se tient à une distance moyenne de 228 millions de kilomètres du Soleil. Est-ce que Mars est jalouse parce que la Terre est plus près du Soleil? Ah, ben c'est pas normal, la Terre est privilégiée, gna gna. Pas du tout. Et le Soleil, lui, il tourne autour du cœur de la Voie lactée. Vous avez vu la Voie lactée comment c'est? Il n'y a pas, y a pas qu'un Soleil. Mais le Soleil de notre système, ben c'est le Soleil qu'on voit là aujourd'hui. Et le Soleil de votre Église, c'est moi. Voilà. Ce n'est pas un autre. Et s'il y en a un autre, faut qu'il parte. Ou alors qu'on s'entende. Mais vous ne pouvez pas vous entendre avec quelqu'un qui dit, non, ainsi dit le Seigneur, je ne changerai pas une virgule, c'est parce que c'est le Seigneur qui a dit. Que voulez-vous faire? Alors, le Soleil, lui, il tourne autour du cœur de la Voie lactée, qui, elle, mesure 100 000 années-lumière. Ça nous dépasse, déjà, c'est incompréhensible. Et tout ça reste en ordre. Tout ça reste en ordre. Il y a les comètes. Normalement, une comète, elle va droit devant elle. Mais il y a quand même le Soleil qui l'attire parce que le Soleil a une loi, il y a une attraction. Ah, la loi d'attraction, c'est diabolique. S'il y a une loi d'attraction avec le Soleil, il y a une loi d'attraction pour tout, dans le domaine matériel comme dans le domaine spirituel. C'est comme ça. Vous voulez pas le croire? Ben, restez de votre ignorance du Moyen Âge. Alors, les comètes, normalement, elles devraient aller tout droit devant elles, mais à cause du soleil qui les attire, elles font volte-face et puis elles repartent en direction opposée. C'est curieux. C'est quelque chose, mais c'est observable. En fait, une comète, elle n'échappe jamais à l'attraction du soleil. On dirait, mais elle n'échappe pas. C'est pas possible. Le soleil l'appelle chaque fois qu'elle veut partir et la comète revient à chaque fois. Allez, la comète allait, elle revient tous les 76 ans. Donc donne de la marge. Et en fin de compte, la comète, elle perd son énergie parce que voilà, elle fait la folle. Alors elle perd de son énergie et puis à la fin, elle s'approche donc à cause de son manque d'énergie. Toujours plus près du soleil jusqu'au jour où elle va tomber dedans. Rappelez-vous que le soleil, c'est quand même un feu dévorant. Dévorant. C'est-à-dire que même l'enfer, c'est Dieu qui l'a créé. Et tomber dans l'enfer, c'est tomber dans une partie de ce que Dieu est fait. Vous me dites, ah, mais Michel, qu'est-ce que tu dis? Attendez, dites-moi que l'enfer, c'est en dehors de Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Et tout ça se retrouve dans le système de l'Église. Et puis vous avez les astéroïdes. Encore autre chose. Et les météorites, encore autre chose. Les astéroïdes sont des corps célestes qui tournent autour du Soleil et qui risquent pas ou très peu de nous tomber sur la tête. Mais de temps en temps, oui. De temps en temps, voilà, ça quitte sa trajectoire et ça nous tombe dessus. Des fois, il y a des poussières d'astéroïdes qui nous tombent dessus. Parce que les astéroïdes, des fois, il y a eu des collisions d'astéroïdes. Boum, ça se cogne, et puis ça fait des poussières, et puis ces poussières, eh ben, elles rentrent en collision, donc elles voyagent d'une façon un peu désordonnée, et puis elles peuvent croiser l'orbite de la Terre, et quand elles croisent l'orbite de la Terre, elles sont attirées par la loi d'attraction, et elles plongent dans notre atmosphère, et quand elles arrivent, n'est-ce pas, dans notre atmosphère, elles prennent feu, c'est un... Oh, fais un vœu, tu parles. Et puis, il y en a qui y a des morceaux qui tombent sur la Terre. Moi, j'ai un morceau d'une météorite comme ça dans mon bureau que j'ai acheté. C'est magnifique. Ça existe. Donc voilà. Tout ce qui existe dans l'infiniment grand existe dans l'infiniment petit et donc existe aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Les étoiles filantes, il y en a un nombre infini. Par contre, dans le système solaire, il n'y a pas beaucoup de planètes. Ça vous rappelle pas un verset? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Savez-vous que le mot DI, qu'on retrouve dans les noms des jours de la semaine, ça vient du latin dies, dies, qui veut dire jour. Ben, on va dire lundi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jour de la lune. On va dire mardi, ça veut dire jour de Mars. On va dire mercredi, c'est jour de Mercure. Jeudi, jour de Jupiter. Vendredi, jour de Vénus. Samedi, jour de Saturne. Vous allez me dire, ah bon? Oui, parce que dans le français, on a un peu modifié à cause de l'influence judéo-chrétienne. Et samedi, ça vient plutôt du sabbat. Juif, donc. Hein. Mais en anglais, ça se dit Saturday, c'est-à-dire jour de Saturne. En allemand aussi. Et pour le dimanche, c'est le jour du Seigneur dans notre idée française. Mais en anglais, ils disent Sunday, c'est-à-dire jour de... Voilà. Il y a 8 planètes dans notre système solaire, parce que Pluton a été décalé. Hein. Oh non, c'est pas vraiment une planète, elle est naine. Voilà, c'est un nain, on n'en veut pas. Alors, mais il y a beaucoup d'autres planètes, mais elles ne sont pas reconnues par les astronautes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la définition de ce que c'est qu'une planète. C'est pareil dans l'Église. C'est pareil dans l'Église. Vous avez les églises, les trucs reconnus, et puis vous avez les trucs pas reconnus. Par qui? Par les spécialistes. Oui ou non? C'est comme ça. C'est la même chose. Et puis, vous avez les comètes et les météorites, les astres errants, les étoiles filantes, et dans les églises locales, on retrouve ce même schéma. On retrouve le même schéma. Ce qui est important, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Déjà, qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour juger? Ce que je sais, c'est qui je suis. Et qui est mon soleil? C'est ça qui est important. Qui est ton soleil? C'est ça qui est important. En tout cas, moi, je sais que je ne suis pas la lune. Je ne suis pas une lune. La lune, elle est influençable, elle est stable. Pourquoi? Parce qu'elle est sentimentale. Dans toute la... Comment on appelle ça, là? Le mot m'échappe. Non. Je veux dire, dans toute la symbolique, la lune, elle est sentimentale, elle est instable, elle est attirée par la Terre. Elle ne tourne pas autour du Soleil, la Lune, elle tourne autour de la Terre. Et parmi les disciples, il y a beaucoup de personnes qui ont ce côté lunaire, c'est-à-dire avec de l'émotivité, avec de la sentimentalité surdéveloppée, ils sont attirés par l'humain. Alors s'ils ne sont plus d'accord avec... leur pasteur, non pas à cause de l'enseignement, mais parce qu'il se met les doigts dans le nez ou parce que je sais pas quoi, ben, ils vont le quitter. Ils vont s'attacher à un astre errant à cause d'un autre sentiment, un sentiment filial ou un sentiment impur, ou parce que ça les arrange dans leurs propres intérêts, puis ils ont toutes sortes d'excuses, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui disent « Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Branham. » Et puis il y a les autres qui disent « Oui, puis eux, ils sont de Janton. » C'est eux qui le disent. Hein. Ils sont instables et ils quittent le centre. C'est-à-dire, ils sont constamment rappelés à l'ordre, mais il y en a qui résistent. Et ils sont rappelés à l'ordre, finalement, d'une façon forte, s'ils sont prédestinés au salut. Sinon, ben, ils font comme les comètes qui finissent par être détruites. Mes frères et sœurs, accrochez-vous seulement à l'enseignement que je vous apporte. Ou fuyez-le. Vous savez, quand je vois une âme qui travaille pour la lumière, eh bien, je suis attiré par une telle âme. Quand on a découvert le prophète Branham, on a vu qu'il travaillait pour la lumière. Vous avez plein de gens qui pensent qu'il travaillait pour les ténèbres. Et nous, on a vu qu'il travaillait pour la lumière. On a suivi jusqu'à un certain point, parce que ce n'est pas Dieu, Branham. Bien qu'il y en a qui disent qu'il est Dieu. Hein. Vous savez ça, il y en a qui disent qu'il est Dieu. Pour moi, il n'est pas Dieu. J'ai pris ce qu'il y avait de bon, puis j'ai laissé ce qu'il y a de mauvais. Bon. Quand on a rencontré les Adventistes du septième jour, on a fait la même chose. C'est des gens qui sont des belles âmes, qui aiment Jésus, qui aiment le soleil de justice. On a pris chez eux ce qu'on a trouvé de bon, puis on a laissé le reste. Quand on trouve Joseph Smith, il y a des trucs que je ne comprends pas du tout. Mais ce qu'il y a de bon, je vois une chose, c'est qu'ils aiment Jésus. Vous me direz, ils sont polygames. Non, ça a arrêté avec cette histoire de polygames, ils ne sont pas polygames. Il y a 15 millions de mormons qui ne sont pas polygames et il y a quelques centaines de milliers qui sont polygames parce que ce sont les dissidents. Vous savez ce que c'est les dissidents? Vous en connaissez les dissidents? On en connaît. Alors arrêtez d'assimiler, ne dites pas une bêtise, renseignez-vous, allez au moins sur Wikipédia pour savoir qui sont les mormons. Il y a des choses très très bien chez eux. Puis il y a des choses, ben voilà, car j'arrive pas à comprendre. Mais quand je vois une âme qui travaille pour la lumière, je suis attiré par une telle âme. J'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître. Mais à la seule condition qu'elle travaille pour la lumière. Pas parce qu'ils ont une belle chorale. Les mormons, ils ont une très belle chorale. C'est pas pour ça. Non, c'est pas seulement parce qu'ils mettent des costumes cravates quand ils vont au culte ou qu'ils se promènent dans la rue. Si c'est pas, s'ils travaillent pas pour la lumière, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui travaille pas pour la lumière, il n'y a rien à faire. Il peut me faire des promesses, il peut me faire des menaces. Ça ne me fera jamais céder. Jamais. Quelqu'un qui travaille pour la lumière, il est lumière, il éclaire les autres sont éclairés par lui, il y a des fruits. Quelqu'un qui n'est pas dans la lumière ne peut pas porter de fruits. Vous n'avez jamais de fruits qui sortent dans les endroits où il n'y a pas de lumière. Je ne suis pas les gens, et je n'écoute pas les gens, et je ne prends pas au sérieux les gens qui ne portent pas de fruits, qui ne gagnent pas d'âme, qui ne sont pas exaucés dans leurs prières. Non, jamais. Leurs promesses et leurs menaces ne me feront jamais céder. Dernièrement, ils ont dit que j'étais comme Saül. Bon, ben voilà, c'est ce qu'ils pensent. Et puis alors, on fout. Il y a des milliards de gens qui pensent des milliards de choses différentes, et je m'en fous, ça m'empêche pas de vivre. Mais je veux vous le dire à vous, mes frères et sœurs, sachez qui vous êtes, c'est ça qui est important. Qui vous êtes et qui est votre soleil? Si c'est moi, c'est grave. C'est pas moi votre soleil, c'est Jésus-Christ. J'aime la lumière, j'aime la pureté. Alors, si vous travaillez avec ces qualités, c'est-à-dire la lumière, la pureté, ben je serai vraiment complètement avec vous. Peut-être pas tout près, vous avez vu, Mars, Vénus, tout ça, ils ne tournent pas tout près les uns des autres, mais ils tournent autour du même soleil. Maintenant, si vous ne sentez pas que vous recevez quelque chose ici, ce n'est pas parce que je vous donne rien, c'est simplement parce que vous êtes fermé. C'est la différence, il faut arrêter de dire toujours des choses bêtes comme ça. Vous êtes fermé, vous n'avez pas su monter dans les régions lumineuses du rétablissement de la lumière qui brille sur les pierres à l'heure actuelle. Vous voulez rester dans le confortable, n'est-ce pas, branhamisme ou je ne sais pas quoi, avec la voix des sept tonnerres. Et puis, mais c'est très bien, moi aussi je connais, je comprends. Et puis je comprends certainement encore beaucoup mieux parce que je sais très bien que le septième tonnerre, il n'a pas encore fait entendre sa voix, il n'est pas prêt de la faire entendre. Si on connaît les Écritures, on sait que ça n'arrivera que à la fin, après les grandes tribulations. Ouais, mais oui. Ce n'est pas d'orgueil de ma part. Je sais juste qui je suis. Beaucoup trop d'enseignants enseignent sans savoir le principal, qui ils sont. Qui ils sont. Vous voyez, soleil, planète, comète, astéroïde, astre errant, étoile filante, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? En tout cas, j'espère que vous ne vous prenez pas pour le soleil quand même. Dans l'Église, comme dans l'univers, personne ni rien n'est perdant en suivant son propre cycle. Celui qui sait qui il est dans le Seigneur travaille avec tous en vue de l'avènement de Jésus-Christ sur la terre. Avec tous, c'est-à-dire, là par exemple, je vais prêcher dans un enterrement avec, il y aura protestants, catholiques, musulmans. Bon, après, je vais aller au Burkina, je vais prêcher auprès des assemblées de Dieu, et puis d'autres dénominations, je travaille avec eux. Je travaille avec tous. Je ne me prends pas pour le centre du monde, pour la septième trompette à moi tout seul. Trois plaies, quatre tondues. Ceci dit, si un jour j'arrête d'enseigner, si un jour j'arrête de vous donner des révélations, il ne faudra pas quitter l'Église. Parce que les instructions que vous avez reçues doivent vous servir à vivre ensemble autour du soleil de justice, c'est-à-dire autour de Jésus-Christ. Que je sois là ou que je ne sois pas là, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça, là. Comme disait Bernard, notre ami Bernard, qui est un ami aussi de Sylvie, il me disait, bon, mais la vie continue, la vie continue. Ben bien, voilà, c'est comme ça, la vie continue. Et vivre autour du soleil de justice, c'est se maintenir dans l'équilibre. Et vivre autour du soleil de justice pour autre chose que simplement un sentiment, mais à cause de la parole, à cause de l'enseignement qui est rétabli aujourd'hui. Et ça, c'est tout en comprenant que d'autres ont une autre nature. Il y a des gens qui sont des comètes. Il y a des gens qui sont des astres errants. Eh bien, c'est voilà. Ben, vous vous maintenez dans l'équilibre avec tout ça. Mais vous devez savoir qui vous êtes. Parce que Jésus construit son Église. C'est lui qui construit son Église. Et c'est son Église qui est l'union, la communion des esprits qui ont une grande puissance extraordinaire pour éclairer les humains. Vous savez, quand l'Église sera plus là, ce sera fini, plus de lumière. Hein. Pour aider ceux qui sont encore assis dans les ténèbres, qui sont dans la souffrance, qui ont besoin d'être relevés du fumier où ils sont assis. Et tant que l'Église est encore là, eh bien, le monde entier est protégé, mais bientôt elle va partir. Et là, ça va être le chaos, le chaos. Et alors, c'est la raison pour laquelle nous devons tenir notre place autour du soleil, pas simplement pour un but égoïste de dire je veux rester autour du soleil. Non, mais c'est pour pouvoir maintenir tout cet équilibre et ne pas le briser. Et puis ne pas être autour du soleil, non pas être comme la lune qui est autour de la terre. Les choses de la terre attirent à la terre, les choses de l'esprit attirent à l'esprit. Alors, quoi que vous soyez, vous êtes vivant. Tout est vivant. Vous êtes vivant. Alors, ne vous servez pas de votre vie pour satisfaire vos intestins, j'allais dire, vos instincts les plus inférieurs, c'est-à-dire le désir de briller, le désir de vous démarquer, le désir de paraître, le désir de diriger, de dominer, de posséder, de vous venger. Il faut que vos mobiles soient purs et désintéressés. Purs et désintéressés. Et que vous ne cherchiez que les choses d'en haut. Que les choses d'en haut. Si vous cherchez les choses d'en haut, toutes choses vous seront données par-dessus. Si vous cherchez les choses d'en bas, c'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, de briller, de paraître, de diriger, de dominer, etc., eh bien, toutes choses vous seront retirées. C'est dans la loi. C'est comme ça. Heureusement qu'il y a des lois, parce que sinon, on ne sait pas où on irait gicler. Nous disons tous que nous sommes en Jésus. Alors, si c'est vrai que vous êtes en Jésus, alors ce qui est mauvais en vous va être absorbé et détruit si vous êtes en Jésus. Parce qu'en entrant en Jésus, vous lui apportez tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais en vous. Il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Et puis, quand vous allez entrer en Jésus, ça va faire des dégâts. Pourquoi? Parce qu'en entrant en Jésus, vous allez entrer en communion avec ceux qui sont déjà en lui. Et là, ça fait des dégâts. Parce que vous allez rentrer avec des choses qui sont mauvaises. Et ceux qui sont déjà en Jésus-Christ vont devoir vous supporter. Ils vont devoir supporter ce qui est mauvais en vous. Jésus le supporte, lui. Mais les autres, pas forcément. Pas forcément. Et c'est ça qui fait qu'il y a des tensions, c'est ça qui fait qu'il y a tant de problèmes dans le corps de Christ. Et tous les cycles que vous allez faire dans la galaxie Jésus, tout ça, ça va vous éroder. Vous avez vu, les planètes, elles sont rondes. Les météorites, elles ont n'importe quelle forme. Si vous tournez correctement, eh bien, dans la galaxie Jésus, c'est-à-dire autour du Soleil, vous allez être érodé, bien lisse, bien propre pour glisser dans l'univers et suivre votre parcours. Et tout ira bien tant que vous tournerez autour du Soleil. Mais si vous refusez, pas de tourner autour du soleil, tout le monde dit je tourne autour du soleil, mais tourner autour du soleil, c'est accepter l'autorité du soleil, la puissance du soleil. Si vous refusez l'autorité de sa loi d'attraction pour être là où vous êtes, à la place que vous devez avoir, eh bien, vous allez devenir des astres errants. Vous allez devenir comme ceux dont parle Jude, qui dit, en votre présence dans les repas fraternels deviendra une constante menace pour les autres participants. Vous savez de quoi il parlait, hein, déjà. Et vous ne songerez qu'à vous régaler sans vergogne. Vous voudrez être des bergers. Ça, c'est dans Alfred Kuhn, ça. Vous voudrez être des bergers. Mais vous ne répéterez personne d'autre que vous-même. Vous serez semblable à des nuages chassés de ci, de là, par les vents, et ne donnant rien, même pas de la pluie. Peu comme au Burkina, les nuages y passent, mais ils donnent rien. Vous serez comme des arbres à la fin de l'automne qui n'ont donné aucun fruit, parce que vous êtes morts et déracinés. Je me rappelle, Bill Williams avait prêché, oh là là, ça devait être en 72, chez les Gitans, sous un chapiteau, on était là. Il y avait Philippe Leperru, il y avait Mustapha Nouali, il y avait toute cette équipe. J'étais là aussi. J'ai pris une photo. Il avait pris une fleur dans un pot, puis il a dit, voilà, un enfant de Dieu avec ses racines bien profondes. Et puis il avait coupé la fleur, et puis il l'avait offert à une sœur. Et il dit, elle est belle, n'est-ce pas? Mais elle est morte. Ça paraît pas tout de suite, mais arrive le moment où c'est vraiment visible. C'est la mort. Vous ressemblez à des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur propre impureté. Vous serez des astres errants, des étoiles filantes, détournées de leur cours, qui jettent un vif éclat passager, avant de sombrer pour toujours dans l'obscurité des ténèbres à laquelle vous êtes voué. Lisez Jude. Et ne pensez pas, c'est les autres. Réfléchissez, qui suis-je? Qui suis-je? Avec Michou, on en a vu beaucoup qui ont commencé par l'esprit et qui ont fini par la chair et qui nous ont dit que c'était nous qui étions les charnels. Eh bien, si Dieu utilise des gens charnels comme moi pour sauver les gens et les guérir, c'est merveilleux. Hein? Eux, en attendant, ils font quoi? À part des réunions devant leur frigidaire. Le christianisme, c'est pas faire des réunions. Être chrétien, c'est être un arbre qui porte du fruit. C'est être une planète qui tourne propre en ordre autour du soleil, comme on dit en Suisse. Voilà ce que c'est la vie chrétienne. Mes frères et sœurs, sondez vos cœurs, entrez en vous-même pour voir si vous n'êtes pas parjure. Que chacun de ceux qui se sont engagés à suivre Jésus éprouve un sentiment de respect et de dévotion. Pourquoi est-ce que Jésus veut qu'on devienne comme des enfants? Pourquoi? Pour mieux nous manipuler? Pourquoi est-ce qu'un berger veut que ses brebis soient comme des enfants? Pour mieux les manipuler? Non. Mais c'est afin que les enfants ne méprisent... Vous savez, les enfants ne méprisent pas leurs parents, même si les parents ne sont pas parfaits. Hein, Titi, tu ne méprises pas ton papa, ta maman, tu les aimes, hein? Ben oui. Eh bien, Jésus veut que vous deveniez comme des enfants afin que vous ne méprisiez ni vos parents dans la chair, ni vos parents dans l'esprit. Et l'apôtre Paul dit, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, c'est quand même moi qui vous ai emmené au Seigneur. Amen. Jésus, je te prie de bénir encore cette parole et de permettre que ceux qui l'écoutent réfléchissent sérieusement. Je pourrais prêcher d'autres choses. J'ai tant de choses que tu m'as dites et qui sont merveilleuses. Mais en ce moment, il y a une urgence. Alors, je dis ces choses-là. Et quand la date fatidique sera arrivée, eh bien, je m'en détournerai totalement pour me consacrer à ce que tu m'as donné, vraiment. Merci Seigneur Jésus d'être patient. Merci Seigneur d'être miséricordieux. Merci Seigneur de pardonner toutes choses. Je sais Seigneur que tu as pardonné les dissidents et que ce n'est pas à cause du péché de leurs dirigeants que certains sont malades parmi eux. Je sais que tu es bon et je te prie pour ceux qui sont malades parmi eux afin que tu les bénisses. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu de nous aider à rester fermes et à ne pas agir de façon sentimentale, mais d'être des gens de l'esprit qui voient clair et qui continuent leur route. C'est vrai qu'il y a des planètes qui se perdent de vue pendant des centaines d'années parce que leurs orbites ne sont pas tout à fait les mêmes, mais elles se retrouvent toujours à des dates bien claires, bien fixées à l'avance. Et Seigneur, nous savons une chose, c'est que tu es le Dieu qui fixe des dates bien claires et bien fixées à l'avance. Et nous nous réjouissons de nous trouver au moment où il faut, là où il faut, dans ta sainte influence, sous ta bonne loi d'attraction. Merci Jésus. Merci de révéler à chacun et chacune qui il est. Je sais que des gens écoutent ce message enregistré et qui ont des problèmes avec l'Église. Aide-les, Seigneur Jésus. Qu'ils se rappellent, bon, je suis qui pour juger? Pour juger une météorite, pour juger une étoile filante, pour juger une planète, sa grosseur, sa petitesse. Ah non, pas celle-là, c'est une planète naine. Seigneur, aide-nous à être tous des gens spirituels qui se jugent eux-mêmes afin de ne pas être jugés. Seigneur, nous serons jugés comme nous avons jugé. Et Seigneur Jésus, c'est spirituellement que nous devons juger des choses et non pas à cause des sentiments et avec un manque total de pardon, mais avec toujours cette miséricorde, ce pardon d'avance, avec cette bonté qui est quelque chose qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, et permets que toute chose puisse être faite dans la dignité. Merci Jésus, qu'aucune crainte ne dirige nos vies, mais que ce soit l'amour. Merci mon Dieu. Amen.